Donc aujourd'hui, je suis donc avec Julie. Julie, tu m'accueilles chez toi et oui. C'est vraiment kiffant. Il faut savoir que Julie a un chat qui est trop beau.
Tu pourras le mettre en story.
Julie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?
Oui, eh bien, salut Charlotte. Déjà, merci de m'accueillir sur ce podcast. Je suis ravie. Je pense que tout le monde a déjà compris. Je m'appelle Julie.
Encore une fois.
Et j'ai 27 ans. J'habite en région parisienne, donc particulièrement à Versailles. Et je suis coach sportive depuis environ 8-9 mois, à peu près.
Ok.
Et je suis en même temps actuellement enceinte de mon 8e mois.
Alors, pour info, ça ne se voit pas. Vraiment, c'est mon bide quand j'ai mangé trop de pâtes. Non, mais vraiment.
Je sais, j'ai beaucoup de remarques.
Non, mais en plus, d'ailleurs, ça se fait peut-être pas de... Enfin, c'est... En fait, nous, on fait des remarques, mais je pense que les gens qui sont...
Écoute, je pense qu'il y a des remarques, de toute façon, quoi qu'il arrive, que ton ventre soit trop gros ou trop petit... Il y aura toujours des remarques. Les gens diront toujours des remarques à ce sujet-là. Mais ouais. Moi, c'est vrai que j'ai pas un très gros ventre. Et on m'a tellement dit, mais t'as vraiment un petit ventre. Est-ce que t'es sûre qu'il a de la place, etc. Qu'à un moment donné, carrément, je faisais des cauchemars où je rêvais que je n'avais plus de ventre du tout. Ah, et ouais. Je me disais, putain, je me réveillais, tu vois, limite en sueur. En fait, est-ce que mon ventre est toujours là ? Et ouais, c'est parce qu'en fait, on m'a tellement dit que j'ai un peu paniqué, tu vois, sur inconsciemment finalement, ouais. Tu vois, sur ce sujet.
Bon, après, de l'extérieur, t'es super grande, t'es oui. Super fine.
Ouais.
Et du coup, c'est vrai que, moi, je sais qu'à la
ça
salle, on n'a pas tous cramé que t'étais enceinte.
Oui, non. Il y en a encore qui pensent que je suis, au 5e ou 6e mois, ouais. Tu vois. Donc oui, c'est pas forcément très flagrant.
Ok, donc on arrête les remarques directes.
Arrêtez de faire remarquer les ventres des femmes enceintes.
Ouais, non, en fait, après ça va, c'est de la remarque mignonne, mais ça peut être chiant.
Oui, non, mais je sais que ça part toujours d'un bon sentiment, enfin c'est pas, ouais. C'est pas une critique quoi, même.
Ouais, je m'en vais. Julie, est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours pro,
ouais.
L'époque collège-lycée?
Ok. Alors j'ai fait un bac littéraire parce que
ouais bac L
j'étais pas très voilà j'ai
t'étais pas très quoi
j'étais pas très très à l'aise à l'école.
Ok.
Et c'est surtout que j'aimais beaucoup les langues, donc je me suis orientée du coup vers un bac littéraire. Et comme je pense beaucoup de personnes, surtout dans le bac littéraire, je ne savais pas quoi faire post bac. Et j'aimais beaucoup voyager et j'ai eu la chance, plus jeune, avec ma mère et mon beau-père, de voyager dans les hôtels, etc. Et comme j'aimais les langues, je me suis dit, pourquoi pas se diriger en hôtellerie.
Ok.
Et du coup, j'ai fait une licence, donc de 3 ans, un bachelor en management hôtelier sur Paris, qui était complété par finalement 3 ans de stage que j'ai fait du coup tout le temps en hôtellerie. Et là c'était spécialisé hôtellerie de luxe principalement. Et donc j'ai fait de la réception, j'ai fait du service en salle, j'ai été dans les étages même en tant que gouvernante. Okay. Et femme de chambre. Donc j'ai un peu tout vu. Et j'ai fait 3 ans là-dedans. J'ai aussi travaillé dans une agence de location d'appartements haut de gamme pour les touristes dans Paris. Là, pareil, j'ai fait un an de stage avec eux, plus un CDD.
Ok.
Et après ça, j'ai voulu faire un break parce que finalement, j'ai beaucoup aimé l'hôtellerie. J'ai beaucoup aimé... c'est vraiment une famille, en fait. Quand tu bosses en hôtellerie, vraiment, c'est une famille. Les gens qui sont tes collègues, t'es tout le temps avec eux. C'est... une vie un peu particulière parce que t'es tout le temps en décalage. Chaque semaine, les horaires changent. Et puis t'es tout le temps avec de la relation clientèle. Enfin, principalement quand t'as la réception. Moi, c'est ce que j'aimais en plus. Mais c'est vrai que du coup, il faut tout le temps être au top. Mais c'est drôle parce que finalement, j'ai un peu quitté ce milieu-là parce que j'en avais marre. Et puis tu vois, des années après, je reviens dedans. Et il faut toujours être au top dans ce que je fais actuellement.
On y reviendra.
Donc c'est assez rigolo. Mais du coup je savais que ça me plaisait, mais je savais pas si j'avais vraiment envie d'en faire mon métier et de m'épanouir là-dedans et de surtout évoluer.
Okay.
Et comme je te disais, je voulais vraiment voyager et j'ai pas forcément eu la chance de voyager pendant justement tous les stages que j'ai pu faire en hôtellerie. Et du coup, moi, dans ma tête, depuis assez longtemps, je voulais partir en Australie. Donc, j'ai travaillé j'ai fait un CDD de 7-8 mois, du coup, dans l'agence de location d'appartement que je te disais, pour mettre de l'argent de côté et ensuite pour partir en Australie. Donc, je suis partie en Australie en 2017.
C'est quoi comme type de vie? Enfin, là, pour aller en Australie,
Il y a plusieurs visas.
Ouais.
Je me souviens plus du nom exact, mais moi, c'était un visa d'1 an.
Ok.
Pour travailler, en fait.
Ouais, t'es allée quoi, dans les fermes?
Alors, c'est un visa qui te permet justement de faire les fermes. Moi, personnellement, je les ai pas faites.
Ouais.
Mais tu peux faire les fermes okay. avec ce visa-là. Mais en tout cas, c'est un visa d'1 an qui est renouvelable après 1 an.
D'accord.
Et donc je suis partie 7 mois en Australie avec ma meilleure amie et on est parti en backpack, donc c'est-à-dire sac à dos, un peu à l'aventure, à l'arrache. On est arrivé à Melbourne, on savait pas trop vraiment tu vois, ce qu'on allait devenir, ce qu'on allait faire. Et donc on a décidé de d'abord travailler pour gagner un peu plus d'argent encore et l'objectif c'était d'acheter une voiture pour ensuite faire que du road trip. Donc on a travaillé d'abord pendant 3 mois, un peu plus au sud de Melbourne, dans un petit village paumé, il n'y avait vraiment rien à faire, on était juste là pour travailler. Et comme elle aussi, elle venait de l'hôtellerie, on a travaillé à la fois dans une auberge de jeunesse où on était hébergé gratuitement, et en contrepartie du coup, on travaillait dans l'auberge de jeunesse, donc tu vois, on pliait le linge, enfin c'était vraiment... Et on dormait ouais. dans une caravane qui était dans le jardin de l'auberge de jeunesse, enfin, c'était n'importe quoi. Et ça, on pliait le linge le soir, et dans la journée, on cumulait 2 jobs. Le matin, on était dans un hôtel où on faisait le ménage, et l'après-midi, on était dans un hôtel où on faisait la réception.
Okay.
Donc on cumulait ça, c'était fatigant. On avait 0 jour off, mais ce qui est cool en Australie, bah, c'est que tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent, surtout quand tu as ce principe-là où tu travailles à côté et tu es hébergé gratuitement, tu vois. Tu peux être hébergé gratuitement chez les gens ou alors en auberge de jeunesse. Enfin, voilà, il y a plein de petits tips, tu vois, où tu peux économiser facilement de l'argent sans trop en dépenser. Surtout que nous, on était dans une ville où finalement, il n'y avait rien à dépenser, tu vois.
Il n'y avait rien.
Tu étais juste là pour travailler. Et donc, on a fait ça pendant 3 mois et demi. Et puis, on en a eu marre, finalement. Enfin, moi, surtout, je venais en Australie vraiment pour...
Découvrir.
Ouais, pour voyager, en fait. Donc, je voulais pas rester encore plus longtemps. Et surtout, j'avais pas trop envie non plus de faire des fermes à nouveau. Parce que ça veut dire que les fermes, t'es obligé de faire un certain nombre d'heures. Donc, t'es à la limite de rester encore 2 mois à travailler dans les fermes, etc. Et donc, forcément... Tu vois moins longtemps, quoi.
Ouais.
Enfin, tu voyages moins, je veux dire.
Et après, donc, les 3 mois où t'as travaillé, du coup, dans cette petite ville à côté de... Enfin, au sud de Melbourne.
Ouais.
Tu pars quand même voyager un peu
ouais.
avec ta
du
meilleure
coup,
amie.
Ouais, du coup, on retourne à Melbourne, on achète une voiture. Et c'était une voiture qu'on avait achetée à des Français. Et là-bas, donc, il y a plusieurs types de voitures pour voyager. T'as les 4x4 ou alors t'as des voitures qui sont assez longues. Et en fait, c'est des Français qui avaient déjà voyagé pendant plusieurs mois avec cette voiture-là. Donc, elle était complètement aménagée. Il y avait un lit à l'arrière avec une kitchenette. Enfin, c'était vraiment super bien fait. Donc, on a acheté cette voiture. Et à côté de Melbourne, sur une petite île, il y a la Tasmanie. Donc, on s'est dit, bah, c'est l'occasion d'aller en Tasmanie. Donc, on a pris le ferry, on est allé en Tasmanie. On a fait le tour de la Tasmanie. En plus, bah, cette voiture, elle avait je sais pas combien de kilomètres déjà, mais elle était vraiment vieille.
Ouais.
Et on a eu que des galères, vraiment. On a eu que des galères avec cette voiture. Enfin, on était paumés en plein milieu de la Tasmanie sur des routes où il n'y avait pas de réseau, il n'y avait personne. Et nous, on était à 2 doigts de se dire, mais enfin, là, notre voiture, elle va nous lâcher. Enfin,
ouais.
Qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Donc, on a eu vraiment des galères, mais elle nous a tenus vraiment jusqu'au bout parce qu'on a trouvé un produit miracle à mettre dans le moteur. Enfin, c'était vraiment, tu vois, c'était vraiment la débrouille. Et donc, on a fait la Tasmanie pendant 1 semaine et quelques. Et après, on est revenu sur la Terre, donc à Melbourne. Et on a voyagé comme ça pendant auprès 4-5 mois jusqu'à Cairns, qui était notre destination finale. Donc, on a fait Sydney, on a fait plein de petites villes trop belles.
Ouais.
À Sydney, par exemple, on s'est arrêté pendant 1 mois et demi et quelques. Et là, pareil, on était logés chez des gens gratuitement. Ça s'appelle, en fait, c'est ce système, ça s'appelle Helpix. Donc, t'es logé chez des gens gratuitement. Et en contrepartie, tu leur rends un service. Il fallait nourrir les chats et les chiens de la maison. Donc, tu vois, il y avait 2 chiens et il y avait 4 chats. Et c'est tout ce qu'il fallait faire, en fait. Et sauf qu'on était dans une maison, mais incroyable. Enfin, elle était trop immense. Cool. Il y avait carrément un ascenseur, s'il te plaît, dans la maison. Et donc, nous, ça faisait déjà 3 mois qu'on voyageait dans la voiture. Et tu vois, quand tu veux te changer, te mettre en pyjama, t'es dans la voiture. Il pleut, t'es dans la voiture. T'as pas de toilette. T'as pas de douche, ou alors les douches, tu prends les douches froides, publiques, enfin, tu vois, c'est la galère. Et là, on se retrouve dans une maison qui est juste incroyable, avec vue sur la mer et tout. Et juste le fait, tu vois, de se dire, tu te mets en pyjama dans une chambre, et ouais. Tu vois, c'est tout con, mais quand tu voyages pendant des mois comme ça, juste le fait de retrouver juste une chambre dans laquelle ouais, tu peux confort, te changer... Quoi. C'est une sensation, mais trop bonne. Mais finalement, tu vois, on y est resté, allez, 1 mois et demi, 2 mois, je crois. Et en fait, on était trop contentes de retourner dans cette vie backpack en mode voiture. Ouais. Alors, au bout d'un moment, ouais, c'était cool, le confort et tout. Et la ville, c'était super. Mais on avait trop envie de retourner dans notre petite routine avec notre voiture, à galérer un peu, à manger, à chercher ouais. une place la nuit pour se garer et être safe et dormir dans un endroit safe. Enfin, en fait, on aimait trop ce truc à la route, tu vois.
Ouais.
Et voilà, après on a fait Sydney et on est reparti. Et pareil, on a pris la route jusqu'à Cairns. Mais bon, je te parle de ça il y a 2 semaines hein, qui se sont écoulées pour arriver jusqu'à Cairns. Et pareil, à Cairns, on a refait un LPX. On était logés gratuitement, maison avec piscine et tout. Et là, il fallait juste s'occuper des enfants quand ils rentraient de l'école. Genre, c'était juste jouer au Uno, tu vois, ils avaient 12-13 ans. Enfin, c'était...
Ouais, ça va.
C'était très tranquille, quoi. Donc franchement, à chaque fois, on a eu de la chance sur les personnes qui nous ont accueillis, parce que souvent, c'est pas trop le cas. Il y a beaucoup de personnes qui profitent justement de ce système LPX pour exploiter un petit peu les personnes qui viennent vivre chez elles, leur demander de faire des travaux de ouf, ou tu vois, t'es vraiment la boniche ou quoi, et en contrepartie, t'es logé gratuitement, donc... Tu vois, quand t'es backpack, tu mises tout sur l'économie au max. Et donc forcément, tu peux un peu te retrouver dans ce cercle vicieux.
J'imagine que ça peut aller beaucoup plus loin en plus.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc nous, franchement, on a eu trop de chance tout le temps. Donc,
Vous avez fait des rencontres ou pas Ah, bah, mon sourire. Pas des rencontres de gens pour parler, tu vois.
Mais alors, en fait,
vous étiez célibataires toutes les deux ou pas?
Non, en fait... Donc, ma copine était en couple depuis des années. Et moi, il s'avère que j'ai rencontré mon copain, donc mon copain actuel, 3 semaines avant de partir en Australie.
Ah ouais?
Ouais. Et du coup, finalement, j'étais en couple quand je suis partie en Australie.
Ouais, mais c'est...
Alors que moi, avant de partir en Australie, j'étais là, ouais, je fais 0 rencontre. Vraiment, mais vraiment, peut-être 1 an avant l'Australie, je me suis dit ça, je fais 0 rencontre. L'Australie, je vais me trouver un Australien, je vais me faire mon 2e visa, je vais vivre en Australie, tu vois. Et en fait, non, j'ai rencontré du coup mon copain. D'accord. 3 semaines avant de partir en Australie.
Et comment vous avez vécu la distance ?
Eh ben écoute, c'était difficile. J'ai très mal vécu les 2 premières semaines, on va dire, où je suis arrivée en Australie. Surtout que vraiment avec mon copain, c'était coup de cœur, coup de foot direct. Enfin, on s'est pas trop posé la question de savoir est-ce que tu pars loin, est-ce qu'on reste comme, enfin, est-ce qu'on est en couple, pas en couple. Enfin, c'était tout de suite, voilà, on est ensemble. Tu fais tes mois en Australie, tu reviens et on est ensemble et voilà quoi. C'était vraiment, on s'est pas posé de questions là-dessus.
Ah ouais.
Du coup, les 3 semaines qu'on a passées ensemble avant que je parte, c'était vraiment intense, full love.
D'un coup, ça s'arrête.
D'un coup, ça s'arrête. Et les 2 premières semaines, je les ai vraiment très mal vécues. Enfin, j'étais au bout du, rouleau.
T'avais envie de repartir ou pas?
Bah, quand même pas, parce que c'était un voyage quand même que j'ai attendu depuis... ça faisait très très longtemps que j'attendais ce voyage. Donc oui, forcément, j'avais plutôt envie que lui vienne.
Ah ouais,
et d'ailleurs, il est venu.
Oh.
Ouais, très mignon. mais du coup, ouais, les 2 premières semaines, franchement, j'en ai beaucoup chié. Et surtout que y a un décalage horaire qui est quand même assez conséquent.
Bah,
donc quand moi c'était mon après-midi, fin de journée, lui c'était
le matin.
Ouais, donc c'était assez compliqué. Mais en fait, on faisait des visios 2 fois par jour. Donc moi à mes matins et à mes soirs. Enfin, on arrivait à s'organiser comme ça. Et aussi, moi, je lui partageais tout. Donc, tout ce que je faisais dans la journée, je lui envoyais des photos, des vidéos. Puis lui, ça lui permettait de voyager un peu aussi parce que finalement, lui, il n'avait pas grand-chose à... Tu vois, son expérience, il était sur Paris, ouais. Au boulot. Enfin, il avait toujours la même routine alors que moi, j'avais des choses à partager. Et on avait aussi un petit... notre petit truc à nous, c'était de s'envoyer une photo par jour qui était numérotée. Donc la photo 1 du jour, le lendemain, c'était la photo numéro 2. Et en fait, au total, je ne sais plus combien de photos on a accumulées. Évidemment, on s'envoyait d'autres photos dans la journée, tu vois. Ouais. Mais dans la journée, il fallait qu'on s'envoie au moins un selfie particulier. Donc, je ne sais pas, tu vois, en train de faire je ne sais pas quoi, tu vois. Pas de sous-entendu.
Attention, il n'y a pas de but.
Mais voilà, c'était des photos hashtag numéro 1, hashtag numéro 2. Okay. Et en fait, du coup, à la fin de mon séjour, ben, on en a accumulé, tu vois, ouais. Genre plein.
Et lui,
genre.
Lui il vous a rejoint vers quel moment ?
Quand on était à Sydney. Okay. Donc en fait, quand on était à Sydney...
Dans la grosse baraque.
Ouais, dans la grosse... En fait, il est pas resté dans la grosse baraque. Ma copine, elle avait trouvé un job en tant que serveuse. Donc en fait, elle est restée dans la maison et elle travaillait. Et pendant ce temps-là, moi, je lui ai organisé à lui un road trip. Donc on a... Bon, c'était pas un road trip vraiment en voiture. On a pris l'avion, du coup, pour faire plusieurs petites villes que moi, j'avais aimées. Et du coup, pendant 2 semaines, on a un peu voyagé comme ça. On a fait plusieurs villes. Et comme ça lui a permis de découvrir l'Australie, quoi. Ouais,
et quand vous êtes... Non, mais là, je fais que des questions intimes et tout.
Non, non, vas-y.
Lorsque vous vous êtes retrouvés,
ouais.
C'était comme lorsque tu l'avais rencontré.
Ouais, c'était ouais. Fou. Franchement, ouais. C'était incroyable.
Ouais, c'était vraiment un gros coup de cœur.
Ouais, coup de cœur. Et du coup, la première... Donc, il m'avait rejoint... Je crois que c'était... Ouais, c'était à Melbourne, je crois. Ou à Sydney. Bah, je me souviens même plus. La
honte. C'est pas grave.
Non, c'était à Sydney, du coup, parce que j'étais à Sydney à ce moment-là.
Ouais.
Et du coup, il m'a rejoint à Sydney. Et avant qu'on se rencontre, évidemment, ça faisait que 3 semaines qu'on était ensemble, tu vois. Donc, on n'habitait pas ensemble ni rien. Et du coup, quand il est arrivé à Sydney, il m'a demandé si je voulais habiter avec lui à mon retour et tout. Donc, évidemment, moi qui étais genre trop in love, il me manque. J'ai dit, bah ouais, bien sûr.
Ah, c'est ouf.
Et donc, il est resté 2 semaines, 2 semaines et demie. Et après, il est reparti. Et donc là, à nouveau, t'imagines, gros coup de massue, PLS total. Ouais. Il a fallu encore à nouveau 2 semaines pour que je m'en remette. Parce que, bah, évidemment,
oui, tu vois. Il est parti,
ouais. Voilà, c'est ça, il est parti. On venait de vivre 2 semaines un peu magiques où t'es en Australie, tu vis des trucs uniques. Donc, forcément,
ouais,
c'est un peu
partager,
dur.
Ouais, t'as envie de partager,
ouais. Ouais, c'est ça.
Ouais, après, t'es revenue quelques mois après.
Et au final, je suis revenue, oui. Je suis restée après 3 mois, 3 mois et demi, quelque chose comme ça.
Ok.
Et du coup, je suis rentrée sur Paris et voilà, j'ai emménagé avec lui à ce moment-là.
Donc là, après, vous avez emménagé ensemble et du ouais. coup, enfin, comment t'enchaînes après au niveau de ton travail ? Comment tu te remets dans le bain ? Parce que j'imagine que lorsque tu reviens, t'as pas vraiment envie
Franchement, c'était trop, trop dur. En fait, déjà, le deal que j'avais passé à l'époque avec. À l'époque, je dis ça. J'avais 22 ans, tu vois, donc j'étais.
Ouais, c'était il y a pas si longtemps.
C'était il y a pas si longtemps. Mais du coup, mes parents me disaient, ouais, ce qui serait quand même cool, c'est que quand tu reviens d'Australie, tu fasses quand même un master et tout, parce que, voilà, je sais pas, dans leur tête, il fallait avoir un bac plus 5, c'était plus sécurisant ou quoi. Et moi, en plus, je t'avoue, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc finalement, retourner dans des études, c'était un peu, moi aussi... plus safe, on va dire, parce que du coup, j'avais pas une décision à prendre dans l'immédiat de genre je recherche un métier et je m'enferme là-dedans et je sais pas si ça va me convenir, tu vois. Donc, quand j'étais en Australie, en même temps, j'ai fait des démarches pour trouver un master en communication et plutôt communication tournée luxe, parce que ce que je m'étais dit, bon bah, comme j'ai un background en hôtellerie, pourquoi pas faire de la communication dans l'hôtellerie de luxe.
Ok.
Et du coup, j'ai fait un master du coup pendant 2 ans. En communication du luxe et en même temps j'avais une alternance à faire où j'étais attachée de presse dans une petite agence de presse. Et donc au départ j'étais sur le pôle beauté qui était assez intéressant et ensuite j'étais sur le pôle art de vivre où là je gérais du coup les relations presse d'hôtel etc. Donc ça avait un peu plus de sens avec la formation de ma licence. Et ça, c'était très dur, du coup, ce retour à la réalité, parce que déjà, j'ai eu beaucoup de changements. C'est-à-dire que tu passes de ton mode de vie australienne où tu vis de rien, tu te réveilles, tu ouvres le coffre de ta voiture, tu es devant la plage, enfin, trop bien.
Et là, tu te lèves.
Et là, tu te lèves. Et en plus, du coup, j'ai déménagé chez mon copain. Donc, bon, tu vois, c'est un autre style de vie. Enfin, moi, avant, j'habitais avec mes parents, tu vois. Donc,
jamais vécu avec lui, quoi.
Ouais, jamais vécu avec lui. Et en plus, on en reparlera après, mais il a un enfant, tu vois. Donc, du coup, c'était aussi un nouveau, un nouveau chamboulement. Il habitait dans une ville que je ne connaissais pas du tout, dans un département que je ne connaissais pas du tout, et loin de Paris.
Oh, alors, on va pas dire la ville, mais c'est pas loin de Paris, hein. Non, mais c'est bon.
Pour moi, à l'époque, c'était vraiment loin, parce que quand j'habitais chez mes parents, j'étais quand même un peu plus proche, tu vois. J'ai jamais été dans Paris même. Mais en termes de transport et tout, c'était quand même...
On se calme.
Un peu... Attends, là, on est à Versailles. C'est chill pour aller sur Paris, OK?
Non, mais alors là, tu vas te dire ça. Il y a des gens qui vont te dire « Ah non, mais Versailles, c'est super loin. Ouais. » Versailles, c'est à une demi-heure de Paris.
Ouais, Versailles, franchement, c'est super bien desservi.
Bon, là, c'est un peu plus loin que Versailles, voilà.
Ouais, là, c'était vraiment quand même plus loin que Versailles. D'accord. Et c'est surtout que c'est moins bien desservi. Tu vois, à Versailles, t'as un train toutes les 15 minutes.
Ouais, nous, on a que 3 gares.
On a 3 gares, un train toutes les 15 minutes. Ouais. Là-bas, c'est un train par heure, tu vois. Ouais. Enfin, et puis, souvent des galères. Enfin,
c'est un peu plus galère.
Ouais, très galère. Donc, des fois, pour aller à l'école, je mettais genre 1h30, porte à porte. Et donc, j'étais crevée. Et en plus, dans mes études, je m'épanouissais pas forcément parce que... Finalement, là, tu vois, j'en discute beaucoup avec des copines qui ont choisi le même parcours que moi en communication. Et en fait, quand on en discute, j'ai un peu l'impression que la communication, sauf si t'es passionnée, enfin, c'est vraiment un milieu où tu vas parce que tu sais pas quoi faire et que ça a l'air cool, que c'est un peu un univers qui a l'air intéressant et qui donne envie. Mais au final, je pense que ouais, y en a juste une seule de mon groupe de copines qui est restée dans cet univers de communication.
Ah ouais, on a tout
bougé.
Mais c'est très bouché aussi. Hein.
Et c'est super bouché, ouais. Franchement, pour trouver un stage. Moi, j'ai trouvé ce stage en alternance grâce à une copine qui, en fait, avait fait un stage là-bas. Mais sinon, c'est hyper bouché. Enfin, t'as 600 candidatures. Tu sais, quand tu regardes sur LinkedIn, t'as 600 candidatures dès qu'il y a une offre. Et puis en fait, c'est que du bouche à oreille, il faut connaître quelqu'un dans cette entreprise pour y rentrer, quoi. Sinon, t'as très peu de chance.
Tu finis quand même ton master ?
Ouais, j'ai fini mon master. J'ai terminé mon master et en fait, il s'avère qu'il y a eu le Covid.
Ok, c'était en 2019.
Ouais.
2019, Covid. Allez ! Non, c'était horrible.
Ouais.
Donc là, le Covid, tu le passes, du coup, chez ton copain.
Ouais, alors en fait, bon, entre-temps, du coup, j'ai eu deux ans de master.
Ouais, t'as eu ces 2 ans, ouais, ouais pendant
donc,
les 2 ans.
Pendant ces 2 ans, on a déménagé.
D'accord, vous êtes rapprochés.
Et on s'est rapprochés à Versailles,
oh.
Du coup. Yes. À l'époque, mon objectif de vie, c'était d'être dans Paris, tu vois. Donc, le goal, c'était Versailles et prochaine étape, Paris.
Ouais, et maintenant que t'es à Versailles, no way, pas Paris.
Et en fait, maintenant que je suis à Versailles, je me dis, mais hors de question que j'aille sur Paris.
Bah, après, on va nous prendre pour des bobos versaillaises, mais oui. En fait, le truc, c'est que Versailles, c'est tellement grand. Ouais. Et en fait, c'est...
C'est un petit Paris, en fait.
C'est un petit Paris, mais sans les Parisiens... Oh.
Oups.
Oups, pardon. Non, mais... et puis, t'as pas mal de végétation.
Ouais.
Enfin, juste... Et c'est très, très calme dans certains coins.
Ouais.
Donc, vous emménagez à Versailles.
Et on emménage à Versailles, pour te dire, 3 jours avant le confinement.
Oh, putain.
Ouais.
Oh,
c'était chaud. Ouais. Donc ouais, on s'est rapproché à Versailles pendant le Covid et du coup on a passé les premiers mois dans notre nouvel appartement ici pendant le Covid.
Ok. Tu emménages à 3 jours avant le confinement.
Exactement.
C'est juste ouf quoi. Et là tu te retrouves donc avec ton copain, ouais. Et son enfant.
Ouais.
Voilà.
Exactement.
Moi ça m'intrigue beaucoup. Comment tu l'as vécu cette période ? Alors déjà, est-ce que du coup, vu que c'était à la fin de tes 2 années de master, est-ce que tu avais quand même un travail après et que du coup tu travaillais à la distance ? Est-ce que du coup ton conjoint travaillait aussi à distance ? Est-ce que l'enfant avait besoin de classe à distance ?
Malheureusement, oui. Alors en fait, ouais, donc j'ai terminé mon master et du coup mon alternance, je crois que c'était vers novembre, décembre, quelque chose comme ça.
Ok.
Et je n'ai pas réussi à trouver un CDI ou CDD en communication. Du coup, en attendant de trouver quelque chose, j'avais pris un job d'hôtesse à côté de chez moi. Et en fait, j'étais hôtesse en CDD. Et en fait, j'avais pris ça pour pouvoir après toucher le chômage et faire un peu ce que...
Ouais, et puis avoir de l'argent.
Avoir de l'argent, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et en plus, je voulais pas me mettre dans un CDI parce que je m'étais dit, bah, si j'ai... Enfin, l'objectif, c'était quand même de trouver un CDI en communication, quoi.
D'accord, ouais, donc ce CDD en tant qu'hôtesse, c'était vraiment pour juste, c'était un passage
ouais, voilà,
pour
c'est
que
ça.
Tu puisses aussi continuer tes recherches.
Exactement.
Si tu étais au chômage, c'était, ton but, c'était de continuer tes recherches dans le milieu, toujours où t'étais.
Bah, pas forcément non plus. Je savais vers la fin du master que... à nouveau, c'était pas vers la communication que okay. je voulais forcément m'orienter. Je savais pas vraiment trop quoi faire.
C'était un tremplin,
j'ai écouté
quoi.
Beaucoup de podcasts. J'ai toujours écouté beaucoup de podcasts, d'ailleurs.
T'écoutais lesquels? T'en avais un
Podcast sur l'entrepreneuriat, donc celui de Pauline Léniaud,
ouais.
Celui Génération Do It Yourself.
Ouais, bah à la base, ouais.
Voilà, les gros podcasts okay. comme ça.
Ouais,
je sais que j'en ai écouté
inspirants.
Plein d'autres.
Ils sont trop inspirants.
Mais ouais, c'est super inspirant. Et je sais que je voulais être plutôt dans l'entrepreneuriat, déjà à mon compte, et peut-être monter ma marque ou... bah, on en reparlera, mais j'étais déjà dans le sport, donc peut-être faire quelque
D'accord.
chose dans ce milieu-là, tu vois, avoir ma salle de sport ou quelque chose comme ça. Et du coup, bon, cette option d'hôtesse, c'était une bonne option parce que je savais qu'après, à la fin, je pouvais toucher le chômage. Mais en même temps aussi, l'objectif quand même... premier, c'était de quand même trouver un CDI en communication parce que ça faisait sens avec mon parcours.
Mmh.
Et sauf que voilà, j'ai fait peut-être 2 mois et demi en tant qu'hôtesse. Et en fait, on a été confinés.
Ouais.
Donc bon, c'est pas quelque chose que je pouvais faire en télétravail. Donc finalement, je continuais d'être hôtesse, mais je pouvais pas travailler, quoi. Donc on était quand même...
Le chômage partiel, non?
C'était ouais, du coup, c'était
ça.
Du chômage ouais. partiel, ouais. Et du coup, pendant, je sais plus combien de temps on a été confinés, mais au moins 6 mois, je crois.
Je sais plus. Non, attends, le premier confinement,
mars,
je me rappelle, jusqu'à c'était,
juin,
ouais, c'était
je crois.
Mars.
Ouais, donc non, ça fait pas 6 mois.
Et
même.
Nous, on a repris l'école genre mai-juin, mais
okay,
c'est par
oui.
petits groupes.
Ouais.
Donc je crois que c'était donc mars-avril-mai, donc c'était 3 mois déjà de le
ouais,
premier confinement.
Mais
après, on a été libre un petit peu, puis on a été reconfinés après. Hein.
Ouais, c'est pour ça.
Ouais.
Mais en tout cas, du coup, à ce moment-là, j'étais en chômage partiel et pendant le Covid, du coup, je me suis vachement remise en question parce que voilà, j'avais que ça à faire.
Mmh.
Et moi, j'ai toujours été attirée par le sport, c'est vraiment une passion pour moi. Et du coup, je me disais, mais pourquoi je fais pas quelque chose là-dedans? Surtout que toutes mes copines m'ont toujours dit, mais Julie, mais pourquoi tu deviens pas coach ou pourquoi tu commences pas à entraîner des gens, etc. Enfin, alors, on m'a toujours. Mes amis m'ont toujours un peu drivé dans ce sens-là. Je savais pas trop, tu vois, si c'était vraiment le coaching qui m'attirait, même si j'ai toujours aimé donner des conseils en sport. J'ai toujours voulu embarquer mes copines à faire des activités sportives et tout. Malheureusement, j'ai pas des copines très sportives. Donc...
Allez, ça balance.
Je me retrouvais souvent seule, solo, tu vois, ouais. dans mes délires sportifs.
Mais parce que la place du sport dans ta vie... Enfin, elle occupait quelle place là du coup? Enfin, le sport occupe quelle place dans ta vie là jusque-là?
Une très grosse place. J'ai toujours fait du sport.
Ouais.
Tu vois, pendant ma licence, par exemple, après les cours ou après le stage, en fait, je rentrais pas réviser quoi. J'allais à la salle de sport et j'y passais 2 heures. Et c'est là où ouais, je me sentais bien quoi.
Okay.
Et ça, j'ai commencé à m'inscrire à la salle de sport, j'avais 16 ans. Quelque chose comme ça. Et pour la petite anecdote, je n'ai jamais été sportive étant enfant. Enfin, en fait, je détestais les cours collectifs, les sports collectifs.
À l'école.
Les sports collectifs.
Ok.
Et pour le plus grand malheur de mon père, qui lui est très, très sportif, très dans la muscu, etc. C'est vers 16 ans que j'ai découvert que je pouvais aller à la salle de sport et je me suis dit bon bah je vais tester moi la salle de sport et j'ai kiffé en fait
ouais.
C'est là où je me sentais bien. Je connaissais ce domaine aussi parce que mon père du coup qui lui allait tout le temps en fait à la salle de sport m'emmenait quand j'étais petite parce que mes parents sont divorcés et en fait les week-ends où j'étais chez mon père lui, il allait à la salle de sport et il m'emmenait à la salle de sport. Et en fait, je connaissais tout le monde. Et quand lui, il s'entraînait à la muscu, moi, j'étais dans la salle de cours co et je regardais les cours collectifs, je regardais les coachs, etc. Donc, tu vois, j'étais déjà dans ce milieu, dans ce milieu-là et ça m'attirait pas mal. Et donc, je savais que quand je me suis inscrite à dès 16 ans, parce que c'est l'âge légal pour pouvoir t'inscrire sans un parent, je savais que ça allait me faire kiffer, quoi. Et du coup, on en revient au confinement.
Voilà. Il n'y avait pas de salle de sport.
Il n'y avait pas de salle de sport, donc je m'entraînais. En plus, moi, je me suis toujours entraînée moi-même toute seule, tu vois. Je n'ai pas besoin de regarder une vidéo, j'ai pas besoin de...
Tu fais tes programmes.
Ouais, je me fais mes programmes, quoi. Donc, c'était confinement, sport. Et on a beaucoup discuté d'entrepreneuriat avec mon copain et de monter une marque, etc. Et du coup, je m'étais dit, bah, pourquoi pas, tu vois, ce qui me manque, et en confinement encore plus, c'est que les gens n'ont pas d'équipement chez eux. Et en plus, les équipements de sport, ils sont souvent un peu moches.
Clairement, tu peux le dire.
C'est pas attirant, etc. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça. Et donc, j'ai commencé à travailler un peu là-dessus. Et l'équipement le plus facile, on va dire, à mettre en place et à produire, à fabriquer, etc. C'était des bandes de résistance. Donc, c'est les élastiques que tu mets autour des cuisses.
Oui, et moi, ça me nique les cuisses.
Ouais. Non, mais j'aime. Mais ça, c'est les élastiques en caoutchouc.
Je vais pas balancer le nom de la salle, mais par contre, leurs élastiques, à chaque fois, ça me défonce les cuisses. Et oui, il faut, bah, pour les... Voilà, quand t'as des... Mais même quand t'as des cuisses fines et
peu
tout...
Peu importe les cuisses.
Faut vraiment qu'elles soient larges et doublées, parce que sinon...
Et en tissu, en fait.
Ouais.
Et c'est ça, le problème des bandes de résistance en caoutchouc, c'est qu'elles vont rouler.
Ah, c'est infernal.
C'est horrible. Et donc, du coup, voilà, moi, c'était vraiment mon truc, c'était de me dire, voilà, je veux qu'elle soit épaisse et qu'elle roule pas, etc. Donc, ça soit du tissu, enfin, bon, bref. Donc, j'ai travaillé là-dessus.
Ouais.
Le confinement s'est arrêté. J'ai continué en tant qu'hôtesse. Et puis ensuite, j'ai touché le chômage.
D'accord.
Parce que c'était la fin de mon CDI. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, je me mets à temps plein vraiment sur ce projet-là.
Ouais, donc, fin de ta mission en CDD.
Ouais.
Tu touches le chômage et là, tu te mets à... Bah, à fond là-dessus.
Ouais, à fond là-dessus. Parce que justement, j'avais le chômage à ce moment-là. Du coup, je me mets à fond là-dessus, je crée mon entreprise, etc. Je dépose ma marque, tout ça.
D'accord. Donc, ton entreprise par rapport aux bandes, c'est ça, de résistance et en tout cas de petits matériels pour le sport.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Donc, en fait, je me mets en auto-entreprise parce que c'est ce qui est le plus simple quand tu débutes.
Mm-hmm.
Et puis, pour ce type de projet aussi.
Tu t'es... pardon, je te coupe à chaque fois, mais tu t'es... Pardon. Tu t'es fait accompagner ou tu étais... Enfin, là, vraiment, t'as pris ces décisions toute seule.
Toute seule. Bah, celui qui m'a beaucoup accompagnée, du coup, c'est mon copain.
Oui, bien sûr.
Mais sinon, non, j'étais toute seule pour tout. Donc, ce qui était assez dur, c'était de trouver des fabricants, etc. Ça, c'était une période qui était un peu plus compliquée. Mais bon, une fois que c'était en marche, après moi j'avais juste à attendre ma production et faire un peu ma com du coup à ce moment-là. Donc c'est là où j'ai commencé à créer mon compte Insta et à le développer en tant que conseil sportif, exercice sportif, etc. En attendant de recevoir mes bandes de résistance pour pouvoir mettre en avant mes bandes de résistance et des exercices avec ce matériel, etc.
Là c'est on arrive à quelle période là
on arrive janvier.
L'année d'après.
2021, du coup.
Ok.
Ouais. Et janvier-février 2021.
Oh, d'accord.
Je discutais avec une copine à qui je donnais des cours de sport, comme ça, gratuitement. Mais elle avait besoin, en fait, de se remettre en forme, etc. Et moi, je lui avais dit, bah écoute, si tu veux, moi, je te donne des cours. Et donc, je la voyais deux fois par semaine, un truc comme ça. Et je lui donnais des cours de sport. Et d'ailleurs, c'est une fille qui serait super sur le podcast en termes de récit de vie.
Okay.
Je dis ça, je dis rien. Mais elle ose tout, tu vois. Elle a envie de faire un truc, elle va se former, elle va le faire. Enfin, et elle me dit, mais Julie, pourquoi tu fais pas une formation pour devenir coach, quoi ? Enfin, pourquoi tu le fais pas et tout ? Et je sais pas, j'étais un peu bloquée par rapport à ça. Je me suis dit, bah non, mais une formation... Enfin, ça revient où là, moi, j'ai bientôt plus de chômage, etc. Enfin, je sais pas, ça me paraissait compliqué. Et puis, un jour, j'ai eu un déclic et je me suis dit, bah, ok. Pourquoi je ferais pas la formation, en fait ?
Cette formation, c'est laquelle ?
C'est CQP ALS AG2E. Donc c'est
putain. Excuse-moi mais
je te sors les termes comme ça. Si quelqu'un veut faire cette si quelqu'un dans le podcast veut faire cette formation au moins.
D'accord. Et c'est quoi ?
En fait, c'est une formation d'animateur sportif. Mm-hmm. Pour cours collectif.
D'accord. Elle se fait en combien de temps ?
C'est 6 mois.
Ah, oh, ça va.
Ouais, c'est assez rapide.
Et pour la financer, du coup, t'as...
Et pour la financer, en fait, c'est avec... en fait, tu peux passer par le CPF.
Oui, tout à fait.
Ou alors, tu la finances toi-même.
D'accord, ça marche.
Et c'est dans les 1002, quelque chose comme ça.
Bah, moi, je trouve que... Enfin, pour une formation, c'est normal. Et je trouve que le prix n'est pas affolant, hein, franchement.
Après, ça, c'est la formation. Ça, c'est ma formation. Mais il y a plusieurs types de formations. D'accord. Dans le sport. Il y en a une qui est un peu plus longue, qui dure un an, qui s'appelle le BBJEPS.
Ouais, c'est celui que je... c'est la formation que je connais.
C'est la plus connue. Celle-ci, elle dure plus longtemps, mais elles peuvent se faire en alternance.
Oui.
Donc là, du coup, l'entreprise dans laquelle tu fais ton contrat pro, enfin voilà, te paye la formation.
D'accord.
Et moi, j'ai pas opté pour celle-ci au début parce que j'étais pas sûre à 100% que c'était ça que je voulais faire, tu vois. D'accord. Je me suis toujours un peu cherchée. Mais c'était un premier pas. Donc l'objectif, après, bah, forcément, ça va être d'évoluer soit de moi m'ajouter des petites formations à droite à gauche, en pilates ou autre, ou aussi de basculer sur un BPJEPS. Et comme j'ai déjà fait une formation de 6 mois avec les bases sur les cours collectifs, ben moi, la formation de BPJEPS durera normalement un peu moins longtemps.
D'accord. Mais là, tu n'as fait que cette formation-là
pour l'instant. J'ai que celle-ci.
Et que pendant j'ai... Pardon. Non, vas-y, excuse-moi.
Du coup, je l'ai commencé vers avril 2021. Et en même temps, j'avais ma production de bande de résistance qui était en cours. Et donc, avec cette formation, tu peux faire un stage qui est de minimum 1 mois, je crois. Mais moi, j'ai fait plus. J'ai fait 2 mois et demi, 3 mois, je crois. À la fin de cette formation, je peux du coup donner des cours collectifs. Mmh. Du coup, je commence à travailler avec des salles. Donc là, pareil, j'ai un statut d'auto-entrepreneur. Enfin, j'ai gardé mon statut d'auto-entrepreneur. Et je bosse en freelance avec des salles de sport. Donc c'est moi qui organise mon planning en fait.
C'est ça. Et donc tu es payée au cours.
Au cours.
C'est ça, au cours. Moi j'ai 2 questions par rapport à ça parce que c'est trop bien d'avoir des coachs. Du coup c'est trop cool parce que j'ai genre 2 questions. Alors il y en a une, ça n'a rien à voir avec le côté. C'est pas des questions pièges, parce qu'elle me regarde, elle est en mode putain.
Oh putain,
la pression. Sort pas une dinguerie. La première question, c'est est-ce que c'est pas un métier qui est bouché ? Parce que, juste sur les réseaux.
Okay. Ouais, c'est drôle qu'on en parle parce que je voulais en parler un peu.
Sur les réseaux, je suis désolée. Genre, il y a 15 000 coachs. Je suis désolée. Alors après, forcément, moi, je te connais parce que, voilà, tu fais certains cours auxquels maintenant, je ne vais plus.
Parce que j'ai été traumatisée.
Non, mais voilà. Mais je veux dire, voilà, moi, je te connais par ça. Mais enfin, il y en a plein sur les réseaux. Enfin, moi, je les connais parce que quand tu vas dans certaines salles, tu connais les coachs de certaines salles.
Oui.
Après, tu as les autres, tu as ce que j'appelle les coachs des réseaux, tu as 6 mois, enfin, oui. Tu en as plein. Mais c'est pas. Comment tu fais pour avoir ton réseau ? Alors, ne donne peut-être pas tous tes secrets, mais juste comment tu essaies d'avoir ta place là-dedans ?
Bah, en fait, c'est un milieu, je dirais pas forcément bouché, parce que je pense qu'il y a de la place quand même pour tout le monde. Mais par contre, c'est un petit milieu, donc tout le monde se connaît.
Oh.
Ouais. Et je pense que c'est aussi comme ça que tu fais ton réseau, parce que tu vas travailler dans une salle, donc forcément tu vas rencontrer les autres coachs qui sont là, qui eux-mêmes travaillent dans d'autres salles, et qui du coup peuvent te... Tu vois, s'ils entendent que leur salle avec qui ils travaillent recherche un coach, si tu es en bon terme avec eux, bah, tu vois, tu peux être mis en relation par le biais des coachs. Et en fait, justement, souvent, ça fonctionne un peu comme ça. C'est un peu du bouche à oreille de coach, quoi.
Ouais.
Donc ça, non. Enfin, tu vois, j'ai pas cette sensation que ça soit difficile de trouver. Surtout, finalement, en freelance. Parce que t'as toujours des... En fait, tu t'adaptes plus facilement aussi aux horaires dont les salles de sport ont besoin de créneaux. Mmh. Donc non, ça.
Pardon.
Tes souhaits.
Moi, j'ai mangé un Airways et ça fait ça.
Moi aussi, ça fait ça tout le temps.
Ouais, ça va. Bah, c'est vrai que de l'extérieur... Mais
c'est vrai que je pense que c'est surtout très parisien. Mais c'est vrai que par rapport au réseau, il y a quand même un peu ce côté coach, les coachs stars. Donc sans parler forcément des réseaux, enfin des coachs qui sont uniquement sur les réseaux, type Sissi ou quoi, des coachs YouTube ou quoi. Vraiment les coachs en studio. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un peu ce système de coach star. Voilà, c'est ce coach-là qui marche super bien pour tel studio et celui-là qui marche super bien pour tel studio. Ouais. Tu vois, j'ai un peu l'impression quand même qu'il y a ce truc qui est, pour le coup, là, un peu bouché. Toi, si tu veux arriver dans un studio et faire ta place, etc., pour que les gens te connaissent dans ce studio, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus bouché s'il y a un coach star, tu vois.
Bien sûr.
Après, ça, c'est mon impression à moi. Mais comme je suis aussi sur Versailles, j'essaie de ne pas trop me focus sur Paris.
Bien sûr.
Parce que y a vraiment de quoi faire aussi ici.
Ah oui.
Mais du coup, tu es un peu moins dans la fame du coach. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bien sûr.
Vraiment, sur Paris, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de la fame du coach parce que tu as des studios qui sont super cool dans lesquels forcément tu as envie de travailler. Et surtout, t'as des studios sur lesquels les clients qui viennent, c'est une communauté, quoi, tu vois. C'est vraiment... Ouais. Parfois, t'as l'impression que c'est des sectes, même. Et du coup, ouais, c'est un peu difficile, peut-être, pour ces studios en particulier, de s'intégrer, quoi. Mais...
Moi, je pense que c'est très, très parisien, clairement. Mmh. Et la deuxième, c'est... Alors, je sais pas si parce que toi tu es une femme, du coup, quand je vais te poser la question, ça va peut-être paraître ridicule que je pose ça, mais j'ai l'impression que ce milieu-là, je sens que tu vas te foutre de ma gueule, pour moi les coachs, c'est des... Alors non, il faut que je fasse attention, mais tu vois, j'ai un peu un cliché du coach pas stable dans sa vie perso. Je pense que... Enfin, moi je suis désolée quand je vois des coachs, c'est con, hein, tu vois, c'est comme les fonctionnaires, c'est des feignasses, enfin bon, ça c'est con aussi, hein, c'est tellement pas vrai. Mais du coup, moi j'étais, alors moins maintenant, parce que bah, j'en vois plus, je vois plus de femmes, et du coup j'ai l'impression que vu que ce sont des femmes, elles sont moins instables, mais est-ce que c'est pas genre, vu que c'est une micro-société, genre vous, enfin bon, toi vu que t'es en couple exclusif apparemment, voilà.
C'est dit.
voilà, est-ce que c'est pas un milieu où tout le monde se pécho? En fait, est-ce que c'est difficile, peut-être pour ceux qui sont en tout cas célibataires, est-ce que c'est pas... Tu sais, t'as vraiment cette image du coach, je ne dirais pas quel coach de la salle qu'on fréquente, mais il y en a
ça
un.
Ça m'intéresse, on va débriefer de ça.
Il y en a off. Un. Tu vois, à chaque fois, je regarde, je me dis... À chaque fois, je pose ma poche, je me dis, mais quelle vie il mène, en fait, en dehors. T'as cette image du coach, vraiment, qui est guidé par le sport, déjà, toute sa journée, et le reste, c'est quelqu'un d'instable. Est-ce qu'on peut débunker ça? Non, j'ai rien.
En fait, déjà, nous, c'est une profession, quand même, où c'est de l'opérationnel, et c'est assez dur, parce que, du coup, t'es dépendant des horaires, les créneaux qui marchent, soit très tôt le matin, soit le midi, soit tard le soir. Donc, en fait, déjà, pour trouver une relation stable avec quelqu'un, c'est, je pense, compliqué, parce que tu rentres chez toi, il est 22h30, t'es rincé, et tu repars le lendemain matin, il est 6h30 pour être à ton cours à 7h30, tu vois. Donc, t'as un mode de vie qui est quand même assez, assez compliqué en termes d'horaire. C'est assez éprouvant aussi physiquement. Après, autour de moi, j'ai pas forcément l'impression que les gens soient si instables que ça. Je pense que les gens ont quand même du mal à trouver des relations, à être bien dans une relation. Je sais pas si c'est ce fait d'avoir des horaires qui soient décalés et tout, qui jouent.
Le rythme de vie, quoi.
Après, moi, du coup, dans mon milieu, je suis beaucoup avec des coachs sportifs, du coup, féminines. Mm-hmm. Parce que dans les cours collectifs et les studios, notamment parisiens et tout, faut se l'avouer, c'est quand même principalement des femmes. Donc, j'ai pas trop ce truc de genre charreau ou tu vois
on peut y en avoir mais bon après
il peut en avoir mais j'ai pas trop l'impression.
Ouais.
Après voilà, moi je suis aussi dans j'ai ce truc où je suis sur Paris avec peut-être cet environnement de coach qui va être un peu plus instable parce que déjà sur Paris bah c'est quasiment que du freelance. Et j'ai ce truc aussi sur Versailles où, tu vois, je suis dans des salles où c'est des gens qui sont en fixe, donc qui ont des vies un peu plus posées aussi. Parce qu'ils connaissent leurs horaires, c'est toujours les mêmes horaires.
Ouais.
Et c'est moins... T'es moins dans le... Je vadrouille partout dans Paris pour aller d'une salle à une autre, etc. Enfin, c'est un peu plus stable, quoi, on va dire.
Ouais.
Donc, bon, franchement, ta question est difficile.
Bah non, mais après, il faudrait peut-être que... faire un récit de vie avec, exceptionnellement avec une personne.
En vrai, je pense homme, que peut-être. Alors, je dis pas les hommes parce qu'il y a sûrement des femmes qui sont charros, entre guillemets, qui profitent de ce statut. Parce que c'est vrai que quand t'es coach, tu peux vite avoir l'ego, un ego qui, devient surdimensionné. Parce que, effectivement, déjà, d'une, t'es bien foutu. Enfin, après, ça dépend, tu vois. Pas tous les coachs sont forcément bien foutus, ça dépend aussi de toi, comment tu te...
Oui,
tu...
enfin, clairement, ils ont des beaux culs.
Ils ont des beaux culs. Ok, ok, Charlotte.
On va s'arrêter là.
Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de ça, c'est que t'as un certain aura quand t'es coach, où déjà tu dis ton métier, c'est ah, oh, mais c'est trop cool, ah ouais, t'es coach, et t'as ce truc de genre, les gens. Dans leur tête, c'est genre, ah, mais tu fais du sport tout le temps, t'es tout le temps motivé, genre waouh, tu vois. Et donc.
Et la vérité,
bah.
T'es crevée.
La vérité, t'es crevée, mais en même temps, c'est vrai, tu vois. Ouais. On fait du sport tout le temps. Après, tu vois, moi, je connais des coachs qui donnent leurs heures de cours, mais en dehors de leurs heures de cours, ils s'entraînent pas, quoi. Enfin,
d'accord.
Et ils mangent de la merde, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils font pas attention à ce qu'ils mangent, enfin, ils se font plaisir, quoi. Et puis à côté de ça, t'as le coach. Qui lui donne ses heures de cours et qui en plus s'entraîne à côté, fait attention à ce qu'il mange, etc. Mais en tout cas, t'as quand même cette aura autour du coach en mode. Et puis en plus, il est sur la scène, tu vois, c'est lui le leader, quoi. C'est lui qui t'écoute.
Ah bah, clairement, ouais.
Enfin, voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, il y en a certains, voire certaines, qui peuvent en jouer, en tout cas, parce que bah, forcément, t'es un peu.
La
star, quoi,
ouais,
tu vois.
Clairement. Ok, d'accord. Bon, bah, ça répond à mes deux questions. Maintenant, alors, donc là, tu fais en freelance, tu es dans plusieurs salles, tu fais plusieurs cours. Bon, là, clairement, t'es enceinte, hein, voilà.
Oui. Bien enceinte.
Voilà, 8 mois. Et on va enchaîner là-dessus. Donc là, c'est la pire transition de l'épisode. donc, tu es enceinte de 8 mois.
Ouais.
Je voulais juste placer que Julie ne veut pas savoir donc le sexe de l'enfant, donc on va respecter, on va pas parler de garçon, fille, peu importe, hein, whatever.
Yes.
On n'en parle pas. Ça te fait quoi? C'est la question vraiment nulle.
Bah,
parce que là ta vie va changer là.
Ouais, mais je réalise pas trop.
Enfin, elle a déjà changé.
Ouais, elle a déjà changé.
Ouais.
Je réalise parce que je peux plus là vraiment faire mon métier et ni même moi m'entraîner. Mais honnêtement, sur les 5-6 premiers mois, en fait, jusqu'à temps que je parte en vacances, donc cet été, donc j'étais à mon 6e mois. Donc sur ces 6 premiers mois, je n'ai pas du tout réalisé que j'étais enceinte. Genre, vraiment, j'ai continué mon activité physique pour moi et pour mes coachings à fond. Mon ventre ne sortait pas, donc ça se voyait vraiment pas. J'ai pas eu de nausées, j'ai pas été malade, j'ai pas eu de douleur ou quoi que ce soit. Je menais ma vie, mis à part manger et boire. Voilà, vraiment je menais ma vie comme avant. Et c'est vraiment là pendant les vacances où en fait avec la canicule et tout je ressentais tu vois que ça n'allait plus très bien et mon ventre est sorti en plus à ce moment-là et c'est aussi la période où le bébé bah il commence à bouger etc et donc là je l'ai ressenti et je l'ai réalisé et c'est là où cet été j'ai eu un peu des périodes un peu de stress et de remise en question en mode mais attends comment je vais faire parce que mon corps c'est mon outil, tu vois. Donc, comment ça va se passer, quoi? Parce que là, du coup, il va y avoir plusieurs mois. En plus, quand t'es en auto-entreprise, bah, du coup, quand tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais quand tu travailles pas, tu n'en gagnes pas.
Ouais.
Et du coup, ouais, j'ai vraiment flippé cet été par rapport à ça. Principalement financier, et aussi me dire, bon, bah, ok, mais après, t'arrêtes. Enfin, une fois que t'as accouché, bon, évidemment, il faut se remettre de l'accouchement, etc. Et tu sais jamais comment tu t'en remets vraiment. Sauf que si moi, physiquement, je peux pas reprendre les sauts à droite, à gauche, etc., bah, ça va être compliqué aussi pour moi, tu vois, retrouver ma vie, ouais. Même si j'aurais jamais ma vie d'avant. Mais professionnellement, ça va être compliqué. Et aussi, c'est compliqué en termes d'organisation parce que bah, voilà, j'ai des horaires qui sont très, très aléatoires et peu communs. Donc, du coup, aller sur Paris à 7h30 du matin quand t'as pas forcément dormi de la nuit parce que t'as un bébé, tu vois, est-ce que c'est forcément adapté? Ou pareil, de rentrer à 22h30 le soir alors que t'as un bébé.
Il faut quelqu'un qui s'en occupe.
Il faut quelqu'un qui s'en occupe. Donc, heureusement, il y a
mon... peut pas rester tout seul.
Voilà, elle peut pas s'en occuper tout seul. Donc, après, bon, voilà, il y aura sûrement une assistante maternelle. Le point positif, on va dire, avec la profession libérale, c'est que c'est toi qui fais ton emploi du temps. Donc, je peux manager l'emploi du temps de mon mec, ouais, et en même temps le mien pour s'arranger qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui vienne chercher le bébé, effectivement, tu vois. Mais c'est aussi un peu stressant et je pense un challenge qui va arriver. Mais au-delà de ça, j'adore être enceinte, en fait. Enfin,
ouais, tu kiffes.
Ouais, j'adore voir l'évolution de mon corps aussi, et j'ai hâte aussi de voir l'évolution postpartum, où moi je me remets vraiment dans une condition physique, prise de masse, voilà, tu vois, j'ai déjà mes projets,
mais... La meuf, elle a déjà son planning,
j'ai déjà mon programme.
Et ouais. Parce que toi, tu connais, enfin, ouais, alors je, oui, tu connais bien ton corps, en fait.
Ouais, ouais. Donc ouais, et tu vois, de me voir un peu grossir, de voir ce ventre qui s'arrondit, de plus voir mes abdos et tout, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, je trouve ça beau, tu vois. Et après, j'ai de la chance aussi de pas avoir de douleur, enfin, j'ai vraiment vécu, je touche du bois, tu vois, jusqu'à présent, une très belle grossesse sans aucun problème. Donc forcément, ça joue aussi.
Mais enfin, toutes les grossesses ne se ressemblent pas. Donc,
c'est ça, exactement. Ouais. Et moi, j'ai eu de la chance. Donc c'est pour ça que je le vis aussi.
À fond, ouais.
Je le vis très bien, tu vois.
J'ai une question sur la maternité. Parce que moi, par exemple, tu vois, je ne veux pas d'enfant. Okay. Toi, tu as 27 ans,
ouais,
et tu vas avoir donc ton enfant, ton premier enfant.
C'est ça.
Ça te fait quoi d'être, d'avoir 27 ans, peu importe l'âge, c'est... Ah oui, les sirènes.
En fait, je t'avais dit, je t'avais prévenu. En fait, elles arrivent vers la fin du podcast, oui. Parce que je pensais qu'il y allait en avoir toutes les 5 minutes.
Alors, donc, il y a des sirènes qui viennent de passer. Donc voilà, vous êtes prévenus. Ça te fait quoi d'avoir 27 ans? Est-ce que ça te fait quelque chose d'avoir 27 ans, d'avoir trouvé ce qui peut, donc ce qui est ta voie professionnelle, en tout cas le coaching, le sport, et d'avoir ton enfant qui va arriver? Ça, ouais, fait quoi? Est-ce que tu te sens accomplie?
Ouais, je pense.
Meuf, attends.
Tu m'attendais pas à cette question.
Putain.
En fait, ouais, je me sens accomplie parce que j'ai vraiment trouvé quelque chose que j'avais envie de faire, et dans lequel vraiment je m'épanouis, et vraiment c'est une passion. Tu vois, je suis contente d'aller au travail, je suis contente de voir les gens, de leur apprendre quelque chose. Donc je suis vachement épanouie là-dessus. Et sur la maternité, je dirais que finalement, je ne me rends pas trop compte. Enfin, je n'avais pas trop d'objectifs de vie en mode, il faut que j'ai un enfant avant 30 ans.
Tu avais prévu cet enfant ?
Ouais.
D'accord. Pas du tout. Cette question, elle est sortie de nulle part. Mais ce n'était pas du tout prévu de poser cette question. Mais tu t'avais prévu ?
Ouais. Ouais. C'était quelque chose... comme mon copain, lui, il a déjà... En fait, il est plus vieux. Donc, il a 8 ans de plus. Et du coup, c'est pour ça qu'il a aussi un enfant. Enfin, c'est pour ça. Il pourrait avoir 8 ans de plus et ne pas avoir d'enfant, tu me diras.
Mais... Alors là, oui, t'en es la preuve. J'en suis la preuve vivante, donc clairement.
Donc, en fait, tout de suite, le sujet est venu parce que bah, moi aussi, je me suis intégrée du coup dans une famille déjà faite, enfin, pré-faite du coup. Et du coup, ça a été quelque chose qu'on a toujours, on en a toujours discuté. Je lui ai toujours dit que moi, j'étais OK pour avoir un enfant, enfin que j'en voulais un. Et finalement, en fait, on ne s'est jamais dit quel est le bon moment pour en avoir ou quoi, parce que je pense qu'il n'y a jamais vraiment de bon moment. Tu vois, là, si j'avais dû choisir le moment, enfin, franchement, le jour où on s'est dit, bah vas-y, cette année, c'est cette année.
D'accord.
Tu vois, moi j'étais à peine diplômée de ma formation de coach et je commençais ma vie de coach, tu vois. Mm. Donc finalement, c'était pas forcément le bon moment non plus parce que bah, tu vois, t'es dans une nouvelle.
Ouais, c'est une envie. Enfin,
ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est finalement, l'envie était quand même plus forte et on s'est dit, bah tu vois, ça arrive maintenant, c'est cool. De toute façon, tu sais jamais en plus si ça va vite arriver ou pas. Donc faut pas se bloquer, quoi. J'ai hâte de voir comment cette nouvelle vie va prendre, quelle va être la tournure. Ouais. Et ouais, je dirais que je suis accomplie.
Ouais, alors après, c'est vrai que quand je t'ai dit tu te sens accomplie, enfin, encore une fois, je pèse mes mots parce qu'on peut être célibataire, sans enfant et être accomplie. Enfin,
oui, complètement,
en fait,
ouais.
C'est surtout, non, en fait, j'aurais pas dû dire accomplie, j'aurais dû dire est-ce que tu te sens comblée. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Parce que voilà, moi, une fois que j'ai trouvé ma voie pro, enfin, moi, je me sens accomplie.
Ouais.
Je sais qu'un enfant ne va jamais remplir d'autres choses. Clairement, j'en veux pas. J'en ai déjà sous les yeux. Vraiment,
ouais.
Non, mais je veux dire, c'est, en fait, je vois à quel point c'est... En fait, c'est un enfant, c'est déjà c'est genre un être humain, hein, ouais. Déjà, qui sent pas forcément très bon. Non,
la liste est tous les défauts. Là.
Non, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est tellement, je vois dans le regard des parents ce que c'est un enfant. Je sais pas comment dire, et je vois que c'est tout en fait, c'est tout leur univers.
T'as un peu l'impression que dans la société, avoir un enfant, c'est ce qui va faire de toi l'accomplissement personnel.
De ouf.
Enfin, l'impression.
En tout cas, la société,
j'ai l'impression, ouais.
Dans cette société un peu genre patriarcale, ouais. Très hétéronormée, le couple avec un enfant.
Ouais.
Bon, toi, t'as un chat, mais.
c'est mon bébé.
Mais ouais, non, je vois à quel point c'est précieux aux yeux des parents et vraiment, tu le ressens parce que tu sais que tu. Je sais pas comment dire, moi, je sais que voilà, c'est. Ils sont, enfin, c'est tellement d'émotions dans un petit corps, clairement. Ouais. C'est dur de voir à quel point... en fait, moi, je ressens pas du tout... Enfin, tu vois, l'instinct maternel...
L'instinct maternel, ouais.
Tu te sens devenir une... Bah, parce que toi, tu portes un bébé depuis 8 mois, tu te sens devenir une maman.
Ouais. Je me suis jamais trop posé de questions par rapport à ça.
Ouais.
Je me suis toujours dit que, ouais, j'avais un peu l'instinct maternel. J'ai, par exemple, des frères et sœurs qui... On a, tu vois, 12 ans... 11 et 12 ans de D'accord. différence, parce que bah, du coup, c'est sur d'autres remariages avec mon père, ma mère, etc. Et du coup, ce qui fait qu'on a beaucoup de différences. Et dès qu'ils étaient tout petits, enfin moi, j'étais toujours considérée un peu comme la deuxième maman, tu vois, parce que je m'en suis toujours beaucoup occupée. Ensuite, j'ai rencontré mon copain. Son fils, il avait 4 ans. Et tu vois, j'aurais pu dire, bah voilà, moi, je m'en occupe pas. Enfin, c'est vraiment toi le père. Et moi, j'ai aucune implication là-dedans, alors que c'est pas du tout mon tempérament. Et du coup, très vite, je me suis impliquée dans cette relation, tu vois, et fait en sorte que bah, son éducation suive ce que veut mon copain, ce que moi aussi j'ai envie quand il est chez nous, en tout cas, parce
D'accord.
que bah, voilà, on vit en foyer. Donc, tu vois, j'ai jamais eu trop de mal avec...
Ouais, alors t'étais beaucoup plus jeune, parce que là, t'as 27 ans, donc t'étais plus jeune à l'époque.
Ouais. J'avais 22, ouais, quand je l'ai rencontré.
C'est pas chose aisée de déjà gérer
ouais, bah, c'est pour ça que je t'ai dit, quand je suis revenue d'Australie, c'était pas facile, parce qu'effectivement, j'ai 22 ans à ce
t'as
moment-là.
T'as pris un package, quoi.
Et j'ai pris le package, quoi, avec un enfant une semaine sur deux, donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais voilà, je me suis jamais dit, je veux pas d'enfant, je me sens pas maternelle ou quoi, non, au contraire. Après, je dirais pas que là, actuellement, c'est ce qui fait que genre, je suis accomplie. je suis accomplie parce que ça, enfin, j'ai une super relation de couple, que dans ma famille tout va bien, parce que j'ai trouvé le métier dans lequel je m'épanouis, etc. Mmh. Et certes, bah, du coup, je vais avoir un enfant qui concrétise encore plus un petit peu cette relation de couple, tu vois. Mais ça se trouve, je vais te dire, dans 3 mois, je suis encore plus accomplie, tu vois.
Ouais, dans 3 mois, elle va m'envoyer un texto en me disant « Putain, il dort pas. »
Putain, Charlotte, efface le podcast.
Il ne fait pas ses nuits.
Non, mais en tout cas, je sais pas si c'est... J'ai pas ce sentiment que ça soit ça qui fasse que je suis actuellement à 100% accomplie, tu vois.
Ouais.
Ça y participe très certainement. Mais je me suis pas... En tout cas, je me suis jamais dit... il faut que j'ai un enfant pour être accompli.
Ouais.
Ouais.
Le fait qu'il y ait que tu conçois un être humain, enfin genre là c'est dans ton ventre et tout, tu m'as dit un truc tout à l'heure qui m'a grave... Enfin moi, ça ne m'attire pas du tout, enfin je sais pas comment dire, mais pour autant j'écoute Bliss, enfin le podcast sur les maternités.
Ouais, c'est clair.
Je suis accro genre à ce podcast, ça m'intéresse de ouf. Ça m'intrigue de ouf, mais pour autant, je veux pas d'enfant, enfin, ça m'attire pas. Mais tu m'as dit un truc tout à l'heure, tu me disais que tu me parlais de la position de la tête du bébé pour l'accouchement. Oui, on a parlé de ça. Et en fait, je me dis, en fait, ton enfant, il est dans ton ventre. Est-ce que tu sais, on dit souvent, ah, je l'aime plus que tout, enfin, c'est au-dessus de ma vie. Est-ce que lorsqu'il est dans ton ventre, ça fait ça aussi? Tu te sens connectée à ton enfant ou pas?
Pas tant que ça.
Ouais, pas tant que ça.
Enfin, parce que peut-être aussi j'ai mis du temps à réaliser que j'étais enceinte. Ouais. Et quand j'ai réalisé, pour moi, j'ai surtout pensé à ma carrière professionnelle, on va dire, en mode wow, panique à bord, je suis en freelance, c'est la merde, tu vois. Peut-être que c'est mieux. La meuf a flippé. Après, non, je me sens pas forcément... Tu vois, il y a beaucoup de gens, comme on veut pas savoir le sexe avant la naissance, beaucoup de gens qui me disent, mais avec ton instinct maternel, t'as pas un feeling
genre,
est-ce que c'est une fille ou un garçon et tout? Je dis, bah non, enfin, je sais pas, tu vois, non, je ressens pas ça. Après, voilà, je sais que c'est... Pour moi, c'est plus pas stressant, mais... Tu sais que t'as une responsabilité, tu vois.
T'as
un petit être dans ton ventre, tu peux pas faire de la merde. Donc c'est plus ça, tu vois, moi, qui m'inquiète actuellement. Parce que je veux que tout se passe bien.
Bien sûr, ouais.
Mais je pense que j'aurais cette connexion plutôt à l'accouchement. Peut-être. Mais...
Ouais, désolée de te dire.
Pour moi, je pense que c'est vraiment à l'accouchement que je vais réaliser l'impact. Et que ma vie change. Et de ce que c'est vraiment, tu vois. Parce que, en fait, je suis un peu dans ce mood où, genre, si je le vois pas, je le crois pas, enfin, tu vois.
Ouais.
Et en fait, ouais, je pense que tant que je le verrai pas et que je l'aurai pas sur moi, je réaliserai pas tant que ça, tu vois.
Complètement, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, est-ce que. Comment tu fais. Parce que j'imagine, bah, tu parlais déjà. Du gender reveal, la façon de dire si c'est une fille ou un garçon et tout. Et ça, ça c'est l'angoisse.
Je déteste ces trucs-là.
Ah non, mais on voit là. Puis alors, c'est tellement... Enfin, c'est pas ridicule parce que je peux pas juger quelque chose que je ne connais pas et du coup qui ne m'attire pas. En tout cas, ça. Mais tu sais, tu les vois avec leur bouteille, là, leur truc qui explose pour savoir si c'est bleu ou rose. Mais alors, déjà d'une.
Même si j'avais connu le sexe, j'aurais jamais fait ça.
Ne fais jamais ça. Julie, ne fais jamais ça. C'est tellement. Mais c'est anti. Enfin, c'est du passé, ça. C'est...
Ouais. Non, c'est très américain, sans ça.
Bah, ah oui, et tu m'as. Alors, en plus, je suis un peu fan de ce que t'as dit. Quand j'étais. En fait, j'ai offert à Julie un petit habit pour son enfant.
Ouais.
Et vu que.
Trop mignon, d'ailleurs.
En fait, j'ai pris un truc. Bon, ils disent unisexe, mais en fait, je m'en fous. Enfin, c'était surtout que je trouvais ça cool. Et du coup, tu m'as dit, de toute façon, toi, tu veux... Enfin, c'est pas que t'as dit, ouais, je... Enfin, moi, j'aime quand c'est unisexe, en fait. Enfin, quand c'est... c'est pareil. Enfin, je trouve que c'était assez cool que tu te dises ça. Bah, après, tu l'as pas fait exprès. Mais je me dis, c'est déjà bien de pas mettre, tu vois... Enfin, un bébé, ça reste un bébé, en fait. Enfin, ouais, il va avoir ses expériences.
J'ai eu beaucoup de questions par rapport au sexe.
Ouais.
Mais comment vous allez faire pour les vêtements, pour la chambre?
Oh my god!
T'as l'impression que vraiment, c'est un truc de
rose.
Fou, quoi. Déjà, il y a des couleurs mixtes qui existent. Et moi, si on m'offre un body rose et que c'est un garçon, ça va pas être la fin du monde, enfin tu vois,
non, c'est, pas du tout. C'est un, encore heureux,
c'est un nouveau-né, enfin
c'est un bébé,
c'est
voilà.
Même pas lui qui il est, tu vois, enfin
c'est ça,
tu t'en fiches quoi. Et d'ailleurs bah moi j'aime beaucoup les prénoms mixtes. Et donc
oh putain, va nous lâcher les choix des prénoms.
Non. La famille n'a pas les choix, donc. Non, mais en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais. C'était un prénom mixte parce que je trouve ça trop, trop joli. Donc,
ouais. Et puis, il y en a quelques-uns.
Et il y en a quelques-uns mignons et tout. Donc, tu vois, ça faisait aussi partie du truc. Voilà, on ne veut pas connaître le sexe. Et en plus, j'aimerais bien aller rentrer encore plus dans le truc en se disant ouais. Voilà, prénom mixte et...
au niveau bon là ça va être ma dernière question qui mélange un peu tout tout thème, mais toi c'est horrible parce que du coup là je suis en train de lui créer peut-être de l'anxiété, mais non, mais comment tu te places en tant que femme qui habite en plus près de la capitale, comment tu te situes comme une femme qui va avoir un enfant dans ce monde juste mais claqué au sol? Comment tu... Enfin, est-ce que toi, tu te projettes... voilà, vous allez rester en banlieue parisienne. Est-ce que tu aspires à une vie près des champs, dans une petite maison? Comment tu dis que tu vas élever un gosse, un enfant, pardon, là, en 2022? Bon, après, voilà, ça sera sa première année, mais... attends, je dis des bêtises. Oui, si, on sera pas encore à la fin 2022. Ouais. Mais tu fais comment? Parce que moi, du coup, je me dis, c'est chaud. Hein.
Ouais, ça fait un peu flipper.
Ouais.
Moi, tu vois, quand je vais sur Paris et que bah, là, je suis enceinte, j'ai un peu ce truc de protection, genre autour du ventre, dans les métros et tout, parce que les gens te bousculent. Les gens, ils regardent ton ventre, ils te laissent pas t'asseoir. Mmh. T'as l'impression qu'il y a un peu des fous partout, donc t'as un peu ce rôle protecteur qui est, tu vois, qui actuellement je peux juste mettre mes mains devant mon ventre, tu vois. Mais ouais, ça me fait quand même vachement flipper parce que t'entends des histoires incroyables, et c'est pour ça que aussi je veux plus, enfin c'est plus dans mon objectif de vie d'aller habiter sur Paris. Versailles, je trouve qu'on est quand même...
Oui, il y a quand même des gens qui sont fous à Versailles.
Il y a quand même des fous, mais c'est quand même vachement plus chill. Les gens sont quand même beaucoup moins dans le rush. Ouais. Donc déjà, sur ça, je trouve que c'est beaucoup moins stressant.
Ouais.
Mais après, moi, tu vois, ce que j'aimerais vraiment faire d'ici quelques années, c'est partir vivre dans le sud-ouest.
D'accord.
Parce que mon copain est originaire de Bayonne.
Ok.
Donc j'ai découvert le sud-ouest grâce à lui. Et en fait, je suis allée, mes premières vacances dans le sud-ouest, c'était en rentrant d'Australie. Et je connaissais pas du tout cette région.
C'est magnifique, ouais.
Et bon, quand tu reviens d'Australie et que t'es à Osgore, tu vois, à Saint-Jean-de-Luz et tout, tu te dis, ouais, ce serait cool d'habiter ici. C'est un peu la vibe australienne, tu vois, surfeur, tout ça. Et du coup, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette région. Et l'idéal, d'ici quelques années, ouais, ce serait d'aller vivre là-bas et te dire que ton enfant, il a pas très loin les Pyrénées, il a l'océan. Que tu peux le week-end aller faire des randos, aller à la
nature,
plage,
quoi.
Être beaucoup plus proche nature, tu vois. Mm. Et ouais, ça c'est vraiment quelque chose que moi je préférerais.
Mm. Est-ce que tu t'es posé la question, tu me dis hein, si je vais trop loin dans mes questions, mais je me dis si, bon, peu importe, mais de toute façon que ça sera un garçon ou une fille, voilà, ce sera aussi, mais tu vois, genre je me dis maintenant, moi par exemple, quand je vois les filles de ma classe, je me dis, elles vont évoluer. Tu vois, on dit oui à le féminisme. Enfin, voilà, on se pose plein de questions. Enfin, il y a vraiment une présence LGBTQ+, enfin, vraiment beaucoup plus présente dans la société, et tant mieux. Mais je me dis, vraiment, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire.
Oui, beaucoup de boulot.
Ouais. Et est-ce que toi, t'es prête à vraiment... à ce travail-là, en fait, à te dire que ça soit un garçon ou une fille,
ouais,
en fait.
Ce que
c'est ça,
dire.
Voilà.
Même... je trouve que c'est encore plus challengeant, genre si c'est un garçon, de vraiment l'éduquer dans ce sens, le respect de la femme, et puis même pour toutes les questions LGBT, etc.
Ouais, bien sûr.
Pour tous les domaines. Mais ouais, je trouve ça hyper important, en fait, de participer sur l'éducation, justement, des prochaines générations, pour essayer, justement, que ça... que ça soit moins la merde, quoi.
C'est ça.
Parce qu'il y a beaucoup à faire. Et tu vois, là je le vois par exemple avec le fils de mon copain qui du coup va avoir 10 ans. On écoute aussi ensemble beaucoup de podcasts qui tournent maintenant sur... qui sont des podcasts destinés aux enfants de son âge. Et il parle beaucoup de choses comme ça, tu vois, des questions LGBT, l'homophobie, le harcèlement, etc. Ils abordent des sujets comme ça et je trouve ça hyper intéressant. Franchement, si tous les parents pouvaient faire écouter ce genre de podcast à leurs enfants, ça permettrait de discuter sur le sujet sans que ça soit un tabou et d'éduquer, tu vois. Et je trouve ça hyper important et ouais, c'est...
Il y a une grande partie des parents et puis aussi de l'école.
L'école.
C'est en éduquant, en éduquant les garçons et les filles avec tout ce que nous...
Ouais, et je pense que c'est hyper important aussi d'éduquer les filles en ce sens qu'elles sachent, tu vois, ce qu'il en est, tu vois, la réalité et la réalité
des choses. Et puis même si t'es un garçon, je trouve ça.
Et puis de savoir se défendre aussi, tu vois, et de... d'avoir ce nom, enfin tu vois le...
Tu t'ouvres la petite valise, alors patriarcat, hétérosexualité.
Non mais d'apprendre à dire je suis consentante ou non, tu vois, c'est hyper important. Et en fait ça, on nous l'apprend jamais.
Ouais, là je vois avec mes collègues et tout, enfin nous on travaille vraiment là-dessus et ça fait la diff. Mais je me rappelle quand nous on était à l'école et toi, bon même si on a une différence d'âge, j'ai jamais entendu ça. Au lieu de nous dire parler d'éducation sexuelle aux enfants, en fait déjà parler de consentement et après
c'est ça, tu vois,
voilà, et valoriser peut-être les enfants un peu mieux
L'éducation sexuelle, enfin moi au collège, lycée, etc., on n'en a jamais parlé et je trouve ça hyper...
Mais t'as fait la séance quand même avec la banane où on met la capote,
je crois, je n'ai pas souvenir. En tout cas je crois pas.
T'en aurais eu des souvenirs, je pense.
Mais je trouve ça fou. Parce que, en fait, il faudrait en parler aussi, tu vois. Parce que les enfants sachent ce qu'il en est, de quoi ça parle, ce que c'est vraiment.
Oui, c'est ça. Puis qu'on arrête de bullshiter en mode.
Et parce que malheureusement aussi, il y a des familles où ça reste un sujet hyper tabou et qu'ils n'en parleront pas dans le milieu familial. Donc, si en plus tu peux pas en parler dans le milieu. Éducatif, etc. Enfin, tu vois, en fait, ça
tu vas nous pondre un enfant. Un enfant, ça va être une crème.
Il y a intérêt.
Alors, désolée, je ne veux pas dire tu vas nous pondre, mais tu vas faire un enfant. Ça va être au top.
J'espère.
Bon, écoute, merci beaucoup. On va s'arrêter là parce que ça fait quand même plus d'une heure qu'on papote. Et je t'avais promis un épisode d'une heure. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux?
Sur Instagram principalement.
Ok. Donc,
c'est Wellness with Ju.
Ok, de toute façon, je mettrai le. Je te taguerai.
Voilà.
Moi, je te souhaite de beaucoup de courage et puis de passer quand même un accouchement bienveillant, surtout, d'être bien entourée et que ça se passe le mieux possible. Et que ton enfant fasse ses nuits. Je fais une prière pour ça.
J'espère vraiment ça aussi.
Ouais, je fais une petite prière du micro pour ça, que tu aies tes nuits et que tu puisses dormir, que vous puissiez dormir.
Oui.
Et voilà, c'est trop cool. Je pense qu'avec ton accord, quand tu auras accouché, je préviendrai si c'était un garçon, une fille ou...
Allez.
Voilà, comme ça. Vous voulez des nouvelles?
Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Le suspense.
C'est clair. Enfin. Écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram du podcast et à mettre une note sur Apple Podcast en tapant « Alors meuf raconte » et en mettant des étoiles et un avis. Vous pouvez aussi mettre des étoiles sur Spotify. Merci beaucoup encore pour votre écoute et des bisous. Salut.
Salut.